Un rêve américain par Jean Dève en 1976. Une grande émission dont nous rediffusons cette nuit la deuxième partie. Après l'espace américain, voici Ezra Pound et les poètes objectivistes. Il va s'agir de la relation des écrivains américains à la question nationale et à la langue. Une langue européenne, mais coupée de ses racines. Faire une littérature nationale originale va s'avérer un enjeu. D'un côté, Ezra Pound et les Cantos en plusieurs langues. Pound, ennemi de l'usure, va nier l'influence de la culture judéo-chrétienne et se référer à la culture chinoise. De l'autre côté, William Carlos Williams va écrire une épopée lyrique pour la classe moyenne enracinée. Puis, Charleson va montrer que le classicisme n'est pas une voie, que l'exotisme peut se nourrir d'une référence au passé indien. Enfin, les objectivistes, dans les années 30, vont refuser l'inspiration anglo-saxonne et se vouloir uniquement américain.
Ezra Pound.
With usura hath no man a house of good stone.
Avec l'usure, nul homme n'a maison de bonne pierre, chacune taillée puis ajustée, afin que le décor puisse orner la façade. Avec l'usure, nul ne possède un paradis peint au mur de l'église, harpes et lauses, ni la Vierge qui reçoit le message, une auréole s'élevant de l'incision. Avec l'usure, nul homme ne voit Gonzague, ses héritiers, ses concubines. Un tableau n'est pas fait pour durer, pour vivre avec, mais pour se vendre et se vendre vite. Avec l'usure, péché contre l'éternel, ton pain sera fait pêchissant. Toujours plus, ton pain sera sec comme un pied, sans le blé des montagnes, sans la forte farine. Avec l'usure, le trait s'empâte. Avec l'usure, les contours s'estompent, et nul homme sur terre ne trouve sa place. Le tailleur de pierre est privé de ses pierres, le tisserand de son métier. Avec l'usure, la laine ne se vend plus. Avec l'usure, les moutons n'apportent plus de gain. L'usure est une peste. L'usure émousse l'aiguille dans la main de la servante, éteint le talon de la fileuse. Pietro Lombardo ne vient pas de l'usure. Duccio ne vient pas de l'usure, ni Piero della Francesca, ni de l'usure Zwambelin, ni peinte la Calugna, ni de l'usure Angelico, ni Ambrogio Paedi, ni l'église de pierre taillée signée Adamo mi fecit, ni de l'usure Saint-Trophime, ni de l'usure Saint-Hilaire. L'usure a fait rouiller le ciseau, rouiller l'art et l'artisan, ronger la trame sur le métier. Nul ne sait plus y mêler le fil d'or. Azur est dévoré par ce cancer. Cramoisi n'est plus brodé. L'usure ne trouve plus de même. L'usure frappe l'enfant dans le ventre de sa mère. Il frappe le jeune homme qui fait sa cour, le paralyse dans la couche nuptiale. L'usure s'étend entre le mari et la jeune épousée. Contra naturam. Ils ont amené des putains à Eleusis. Des cadavres prennent place au banquet sur mandement de l'usure.
Usura slayeth the child in the womb. It stayeth the young man's courting. It hath brought palsy to bed, lieth between the young bride and her bridegroom, contra natura. They have brought whores for Eleusis. Corpses are set to banquet at behest of usura.
Stephen Heath, Pound et l'échangeabilité des marchandises.
Il faut préciser tout de suite que ce canto a été écrit par Pound vers 1935-36, c'est-à-dire en pleine période de crise économique mondiale. Alors, c'est un moment où Pound se tend de plus en plus vers les questions économiques. Il commence à s'en occuper vraiment massivement. Par exemple, il publie beaucoup de pamphlets, d'articles, d'essais à ce moment-là qui traitent justement des questions économiques. Il y a un BAB des sciences économiques, un pamphlet sur le crédit social, un pamphlet sur qui pose la question à quoi sert l'argent, donc c'est une période où il s'occupe massivement de ces questions économiques. Ce canto de l'usure est une sorte de document de ses préoccupations à cette période, en tant que celle-ci se condense toujours dans une haine de ce qu'il appelle justement l'usure, le système de l'usure. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais souligner deux points qui sont très simples, mais qui sont aussi essentiels pour la compréhension de ce qui est ici en jeu. D'abord, il faudrait bien saisir toute l'importance qu'attache Pound à l'économique. Ça, c'est fondamental. Il faudrait comprendre justement l'importance que Pound attache à l'économique. Je cite, « La plupart des maux de la société sont fondamentalement économiques. À ma connaissance, il n'y a aucun mal social qui ne saurait être guéri par des moyens économiques. » Donc, c'est véritablement l'économique qui est pour lui la base déterminante. Et l'artiste ne peut qu'en tirer les leçons. Et à ce propos, les cantos ne sont absolument pas une œuvre poétique dans laquelle il y aurait quelques thèses économiques détachables en quelque sorte. C'est une œuvre où l'économique, pour Pound, est dans l'écriture même. Une œuvre où prise avec ce qu'il appelle la psychologie capitaliste, le système de l'usure, qui détermine, qui entame toute la production de l'artiste. Donc, pour lui, l'économique est fondamental. Ensuite, c'est la deuxième chose que je voudrais souligner. Il faut dire que ce que Pound attaque ici, ce qui forme l'objet de sa critique, est justement le capitalisme, le système capitaliste. C'est l'industrialisme du 19e siècle en tant que dégradation complète de l'argent en fausse valeur. Le 19e siècle en tant que siècle de l'idolâtrie de l'argent. Pound dit que le 19e siècle est bien la grande époque de l'usure. Donc, ces deux points soulignés, je voudrais venir à l'usure. Alors, pour Pound, l'usure signifie la forme capitaliste de l'argent, ce qu'il appelle le cancer du monde. Il en donne plusieurs définitions, plusieurs variantes d'une seule définition constante. En voilà un exemple. Il dit « L'usure est une taxe prélevée sur le pouvoir d'achat sans égard pour la production et souvent même pour les possibilités de produire. » Or, ce qu'il faut retenir surtout dans cette définition est l'aspect non fondé en droit et comme aberrant de l'usure. À un moment donné, Pound va jusqu'à comparer usure et sodomie. Il y a beaucoup de limites, évidemment, idéologiques, dans les termes mêmes de la critique que Pound mène contre le système capitaliste du 19e siècle. À beaucoup d'égards, d'ailleurs, il est assez victorien. Il se rapproche d'une tradition anglaise de critique sociale du 19e siècle et il partage beaucoup des faiblesses et des points aveugles de cette tradition. Or, donc, l'usure est cette aberration et cette déviation de la monnaie et de l'argent. L'usure est le régime du néant où l'argent crée de l'argent à partir de rien. C'est un système de prêts et d'intérêts où l'argent ne représente aucun réel. Et la banque, qui est l'institution de l'usure pour Pound, crée de l'argent sur rien, à partir de rien, ex nihil, comme il le dit dans le canto 46, qui suit le canto de l'usure qu'on vient d'écouter. Alors, il y a là la mystification suprême. Et ça se rapproche évidemment de ce que Marx a pu dire sur la fétichisation de l'argent. Ce que Pound voit dans le système du 19e siècle et ce qu'il voit à l'œuvre dans les crises du commencement du 20e, c'est le résultat de cette mystification, de cette autonomie de l'argent, de cette fétichisation de l'argent. Gouvernement et public n'y comprenant plus rien. Il dit l'erreur fut d'idolâtrer l'argent, d'en faire un dieu. Cette dénaturation tient à la fausse représentation que nous nous en faisons de l'argent lui attribuant un pouvoir qui ne lui revient pas. Or, à quoi sert l'argent? Posons la question que Pound lui-même pose, c'est le titre d'un de ses écrits de l'époque. À quoi sert l'argent? Alors, l'argent devrait servir à assurer une distribution homogène, démocratique, dirait Pound, une distribution homogène des biens. Il faut que les choses, les marchandises, s'échangent, qu'elles entrent pleinement dans le domaine de l'usage et non de l'usure. Pound dit « borner l'argent à ses justes limites, lui accorder une durée de vie équivalente à celle des choses dans le monde matériel, tirer parti de son juste avantage, qui est d'être échangeable contre toute marchandise pourvu qu'elle existe, mais ne lui attribuez pas, outre cet avantage, des pouvoirs qui ne correspondent ni à la justice, ni à la nature des marchandises représentées. On approcherait de la sorte de la justice sociale et de la santé économique. Il ne faut pas que l'argent ait cette autonomie, il faut que l'argent soit strictement lié à les choses qu'elle doit représenter, aux marchandises, et de la sorte, on pourrait avec l'argent assurer une distribution des biens, une échangeabilité des marchandises qui fonderait une véritable justice, santé économique. Alors là, évidemment, l'usure serait la fausse représentation. C'est dans l'usure, l'argent en vient à ne plus représenter que lui-même. L'usure est justement l'anti-échange, l'anti-distribution. Les choses ne circulent plus par toute la société, puisque la circulation de l'argent comme capital sur lui-même se fonde sur un processus d'endettement qui diminue sans cesse le pouvoir d'achat des uns au profit de l'accroissement du prix de l'argent que possèdent d'autres. Alors, si vous voulez, le capitalisme, pour Pound, règle le volume de la monnaie au profit du capital et non de la distribution. Et c'est justement cela qui est à la base de l'injustice sociale. Ce que Pound envisage contre le système capitaliste comme étant la santé économique, ce qu'il appelle la santé économique, repose alors sur deux principes fondamentaux. D'abord, l'argent doit représenter quelque chose. Il dit par exemple, et on pourrait citer des milliers de phrases équivalentes dans son œuvre, l'argent doit représenter du pain, de la laine ou quelque chose d'utile qu'on veut obtenir. L'argent doit représenter quelque chose. Et deuxièmement, l'argent doit exister uniquement en fonction du rôle qu'il peut jouer dans la distribution de ces choses représentées. Alors, on vient là à l'important, justement le rôle que peut jouer l'argent en ce qui concerne la distribution des marchandises. Ce rôle est celui de l'argent en tant que crédit social. Et cette expression de crédit social, Pound l'a empruntée à un économiste qu'il avait rencontré en 1918 et dont les idées lui deviennent de plus en plus importantes, un économiste qui s'appelle Douglas, C.H. Douglas. Alors la théorie de Douglas, et Pound vraiment a beaucoup emprunté à Douglas, la théorie de Douglas était justement que la maldistribution des biens due à un pouvoir d'achat insuffisant était de la cause des récessions économiques. Et aux années 30, il y avait même un véritable parti du crédit social qui s'est créé en Angleterre. C'était des gens qui portaient des chemises vertes, etc. Ils distribuaient, ils essayaient véritablement de mener une politique, à partir de ce parti, une véritable politique du crédit social. Le crédit devrait être aux mains de l'État et non aux mains des capitalistes. Il ne fallait pas que ce soit les capitalistes qui prêtent de l'argent. L'argent devrait être prêté par l'État et seulement sur fond des ressources ou des biens ou des marchandises qui véritablement existaient. Il ne fallait pas que l'argent soit créé de rien, ex nihil comme dirait Pound. Donc le crédit devrait être aux mains de l'État, il devrait avoir une distribution des parts comme des actions sociales à tous les membres d'une société par l'État, des parts des actions qui correspondraient aux productions réelles de la société. Et ainsi, on arriverait à une, selon la théorie, à une égalisation du pouvoir des chats et du pouvoir de production. Il y aurait comme une démocratie économique. C'est encore une expression de Douglas, la démocratie économique, et c'est encore le titre d'un des essais que Pound rédige aux années 30. On était alors en régime d'abondance. Pour Pound, il y avait véritablement abondance. Il n'y avait pas de rareté de production, il y avait abondance, il y avait réserves, machines, inventions, etc. Il y avait beaucoup de ressources. Simplement, tout le mal provenait du fait que ces ressources n'étaient pas en rapport avec l'argent et que l'argent était aux mains des capitalistes pour créer une sorte de monopole de l'argent. Et les idées de Pound suivent cette présupposition fondamentale de l'abondance. Il suffirait de régler la distribution pour que tout aille plus ou moins bien. Il faudrait, par exemple, dit Pound, réduire la durée de la journée de travail, ce qui éliminerait le chômage, mais ce serait tout à fait possible parce que, pour Pound, il y a abondance. Voilà, si vous voulez, le parti pris justement du crédit social chez Pound et la raison pour laquelle, chez lui, tout est véritablement axé sur la distribution. Il reprochera, par exemple, à Marx d'avoir fondé tout son système sur l'analyse des rapports du travail. Ce qui, pour Pound, n'est pas important. L'important, c'est véritablement la distribution. L'usure, telle qu'il a décrit dans le canto que nous avons entendu, l'usure est justement l'anticrédit, l'anticrédit social. C'est le crédit capitaliste, le crédit aux mains de... le monopole de l'argent, Pound est contre tout ce qui touche au monopole, l'usure et l'antidistribution, la perversion de l'argent, de la monnaie. Cette notion, cette idée de la distribution des biens, de l'échange des marchandises, cette idée devient une sorte d'évidence pour Pound. Ça devient une sorte de vérité suprême qui ne pose pas tellement de questions politiques. Par exemple, Pound peut citer à la fois Lénine et Mussolini pour dire qu'ensemble, l'un après l'autre, pour dire qu'ils disent à peu près la même chose. Simplement, ils ont des moyens politiques différents pour y arriver. Pour Pound, finalement, peu importe les moyens, si on arrive bien à cet état de démocratie économique, à cette bonne distribution des marchandises. On n'aime pas tellement les moyens de Mussolini, mais on aime beaucoup ses idées économiques. Et Pound peut faire cette dissociation, justement parce que dans sa pensée, c'est dissocié dès le commencement. Économique et politique ne sont pas tellement liés pour lui. D'où justement sa critique de Marx, qui est très 19e siècle, dit Pound, justement parce qu'il a voulu analyser les rapports de production, en commençant par les rapports de travail, etc. Il n'y a pas de problème de lutte de classe pour Pound. Ça ne se pose pas. Donc, inéluctablement, la distribution devient quelque chose à réaliser et ça mène, bien sûr, ça donne justement ce point aveugle qui est la non-pensée de la politique de Pound qui devient justement une politique de soutien à Mussolini. On commence par l'idée de distribution et on arrive à la politique comme moyen de réaliser la santé économique, très simplement, très naïvement.
Ezra Pound, Marcelin Plenet, Canto de l'usura.
Marcelin Plenet, je voudrais qu'à partir de la lecture de ce canto sur l'usure et à partir de la figure d'Ezra Pound, vous analysiez les rapports entre une langue nationale et la biographie. de quoi l'œuvre est-elle le commentaire? Et si chez Pound l'œuvre répond à un souci de totalité, de quelle question est-elle l'idéogramme?